Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann. 10 jours après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire et l'évasion sanglante de Mohamed Amra, BFM TV fait de nouvelles révélations. Depuis sa cellule, le prisonnier a notamment tenté d'acheter des armes de guerre. 9 téléphones ont par ailleurs été saisis en quelques mois. C'est bizarre, je le sens pas ce transfert. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Voilà les mots prononcés par Arnaud Garcia ce mardi 14 mai. Il est 4h du matin. Arnaud Garcia, une des victimes de l'évasion sanglante de Mohamed Amra à Incarville. C'est sa femme, Marie, qui rapporte ses propos dans les colonnes du magazine Paris Match. La jeune femme, enceinte de plusieurs mois, s'exprime pour la première fois depuis l'assassinat de son mari. Elle raconte avoir reçu un message de lui le 14 mai à 10h50. Son dernier message. « Tout se passe bien, on est sur la route du retour, je serai rentrée vers 17h. Je t'aime. » Arnaud Garcia n'est jamais rentré ce jour-là. « J'ai appelé une fois, deux fois, sur son portable perso, sur son pro qu'il m'avait donné. J'ai continué sans m'arrêter, peut-être 30, 40 fois, raconte Marie. Arnaud Garcia n'a jamais répondu et n'est jamais rentré ce jour-là. Tout comme son collègue, Fabrice Mouello, 52 ans. Deux vies fauchées et des familles détruites. Dix jours maintenant que Mohamed Amra est l'homme le plus recherché de France. Mais la traque s'organise aussi au-delà des frontières, avec une notice rouge émise par Interpol pour tenter de localiser le détenu évadé. Ce 22 mai, le Premier ministre Gabriel Attal a rendu un hommage national aux deux agents assassinés.
Je veux vous le dire droit dans les yeux, leur mort ne restera pas impunie. L'enquête avance, elle se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra, mais elle aboutira. Aux criminels, lâches, odieux, qui ont accompli ce crime barbare, je veux le dire à nouveau, ne dormez pas tranquille. Nous vous traquons, nous vous trouverons et nous vous punirons. Le glaive de la justice ne tremblera pas. Nous vous le devons.
L'enquête avance, dit Gabriel Attal. Sur BFM TV, ce mardi 21 mai, une femme dont la parole est très rare s'exprime. Il s'agit de la procureure de Paris, qui supervise, entre autres, l'enquête pour retrouver Mohamed Amra. Laure Bécluau insiste sur le fait que les enquêteurs sont pleinement mobilisés.
Rien n'est exclu, tout est construit, tout est observé, tout est examiné. Bref, tous les moyens sont déployés. À l'heure actuelle, plusieurs centaines d'enquêteurs sont sur ce dossier, plusieurs magistrats, toute une section du parquet de Paris est mobilisée 24 heures sur 24 sur ces dossiers. Les juges des libertés et de la détention qui doivent nous accorder des techniques spéciales d'enquête sont mobilisés sur ces dossiers et je pourrais continuer à l'envi cette énumération.
Ce jeudi 23 mai, BFM TV livre des révélations sur le pédigré de Mohamed Amra.
Stéphane, vous nous révélez ce matin que c'était un vrai caïd, en fait, qui dirigeait son entreprise criminelle et ses trafics depuis sa cellule. C'est pas forcément d'ailleurs de cette façon qu'on avait présenté au tout début de l'affaire. Qu'est-ce que vous nous apprenez ce matin ?
Donc, ce qu'on a découvert au fil de nos investigations au sein du service police-justice, c'est que Mohamed Amra, effectivement, n'est pas ce délinquant ancré dans une délinquance de moyenne intensité. Pas du tout. En fait, très clairement, il gérait son trafic de stupes, ses terrains, comme il les appelle, donc ses points de deal, depuis sa cellule.
Amra, chef de clan, chef de gang. Stéphane Selamy, que j'interrogerai à la fin de ce récit, révèle notamment que 9 téléphones ont été saisis dans la cellule de Mohamed Amra entre les mois de janvier et mai 2023, lorsqu'il était incarcéré à la prison de la Santé. Une information qui ne semble pas surprendre plus que cela Emmanuel Chambaud.
Tout le monde a l'air d'être surpris de découvrir que nos prisons sont des passoires.
Secrétaire général du syndicat pénitentiaire UNSA Justice.
On le dénonce depuis des années, on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Il rentre tout et n'importe quoi dans nos prisons.
C'est-à-dire téléphone, drogue et ce genre de choses.
Exactement, je rappellerai que la loi nous a contraint en 2009 à supprimer les fouilles systématiques à corps, qui était un moyen de lutter contre l'introduction en détention des portables, des substances illicites. Et la loi nous a contraint et restreint sur des fouilles systématiques. Donc maintenant, on n'est pas dans l'obligation de les fouiller. On n'a pas le droit de les fouiller obligatoirement. Il faut avoir des présomptions pour pouvoir les fouiller.
Emmanuel Chambaud, qui explique que tout rentre en prison.
Donc effectivement, on a ouvert une autre faille dans la prison. Aujourd'hui, à l'extérieur, vous avez Uber Eats. Bah, nous, en prison, on a Uber Sheet et Uber Arm, tout ce que vous voulez. Ils viennent avec des drones, ils livrent à la fenêtre des cellules et on n'est pas en capacité de lutter contre ça. Donc ce que vous découvrez là, c'est le quotidien de bon nombre de nos établissements et des collègues qui y travaillent.
Autre réaction, celle d'Yvan Gombert, secrétaire national FO Direction Pénitentiaire. Il ne comprend pas comment autant de téléphones ont pu être saisis à la prison de la Santé.
C'est un établissement qui est doté d'un brouilleur. Comment ça se fait qu'on trouve 9 téléphones dans un établissement doté d'un brouilleur? Ça montre peut-être les défaillances du système et il serait peut-être temps de se poser des questions d'évaluation du dispositif quand on sait que ça coûte très cher un brouilleur pour un seul établissement.
Pendant plusieurs mois, Mohamed Amra va être sur écoute dans sa cellule. Mais à aucun moment, l'administration pénitentiaire ne va être au courant, notamment de la dangerosité de l'individu, ce qui évidemment pose question. Joachim Pueyo, ancien directeur des prisons de Fresnes, et Fleury Mérogis.
Je pense que l'information, effectivement, de l'autorité judiciaire à l'autorité pénitentiaire, elle est indispensable lorsque la sécurité peut être mise en cause.
La dangerosité de Mohamed Amra a-t-elle été sous-évaluée ? Les services de justice, de police et pénitentiaire auraient-ils pu du mieux faire circuler les informations le concernant? Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les enquêteurs travaillent sans relâche pour le retrouver. Au journal Le Parisien, ce jeudi 23 mai, un policier confie « Nous sommes des centaines et eux ne sont qu'une poignée et ne peuvent pas se relâcher. Un fugitif a besoin d'aide, d'argent et c'est souvent là que des erreurs sont commises. Il n'est pas seul. Un complice peut commettre un faux pas. Il peut aussi être balancé. Amra est un trafiquant de stupes. Et dans ce milieu, les concurrents sont prêts à tout. En France ou ailleurs, on ne le lâchera pas. L'usure va l'affecter. Pas nous, conclut ce policier. Bonjour Stéphane Selamy.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter police justice de BFM TV. 10 jours maintenant que Mohamed Amra s'est évadé et vous nous apprenez aujourd'hui que Mohamed Amra n'est pas du tout le petit délinquant qui a été décrit au départ. Il était particulièrement surveillé dans sa cellule pendant 2 ans quand il était à la prison de la Santé. Et c'est en fait un narcotrafiquant, c'est un chef de gang.
On peut l'appeler comme ça, en tout cas c'est ce qui transparaît aujourd'hui, des surveillances très pointues qui ont été opérées concernant Mohamed Amra, donc lors de sa détention, donc, comme vous l'avez rappelé, à la prison de la Santé. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il dispose de téléphones portables, donc ça, c'est plus trop une surprise, même si ils vont en récupérer 9 dans sa cellule entre les mois de janvier et de mai 2023, ce qui est quand même beaucoup. Et on découvre qu'évidemment, il les utilise pour gérer, on va dire, son business, ses affaires à l'extérieur. Et ça consiste en quoi? C'est ses points de deal, ce qu'il appelle des terrains, en fait. C'est dans le jargon des trafiquants, c'est comme ça qu'on appelle les points de deal, le terrain, les terrains. Il gère la manière de menacer aussi ses associés, dans le sens où parfois il est face et confronté, de ce qu'on en comprend, à des gens qui ne règlent pas leurs dettes, qui ont du mal à payer la marchandise qui a pu être livrée.
Il y a donc des intimidations qui sont faites.
Il y a plus que des intimidations.
Là, depuis sa cellule, par
sûr,
téléphone.
Clairement, puisqu'on est dans des menaces, j'allais dire, d'actes ultra-violents, de s'en prendre à la famille, aux compagnes, aux proches, des gens avec qui il est en affaire et qui, visiblement, ont des difficultés à payer ce qu'ils doivent. Ça va même au-delà, puisqu'il est soupçonné d'avoir piloté, depuis sa cellule de prison, un enlèvement des faits qui remontraient au mois de janvier 2023 du côté de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc là, on est quand même à un niveau, j'allais dire, supérieur, d'un homme qui, aujourd'hui, effectivement, peut être qualifié de narcotrafiquant d'envergure, puisqu'il y a c'est tous ces éléments qui apparaissent, mais il y a aussi des faits de ce qu'on appelle de carottage. C'est pareil, c'est dans le jargon des trafiquants. C'est-à-dire que, en fait, le carottage, ça consiste en quoi ? Ça consiste à voler la marchandise qui est convoyée par d'autres équipes de dealers. Donc, c'est pareil. Là-dessus, on comprend qu'il organise ce type de choses. Et puis, ces téléphones, il s'en sert aussi pour se distraire. Il s'en sert pour surfer sur des applications de rencontres, par exemple.
Parce que ce n'est pas des téléphones Nokia avec 9 touches.
Non,
des smartphones.
Voilà, on est sur des smartphones, exactement. Et donc, il dispose de ces smartphones. Et ça lui permet, comme ça, d'aller surfer sur des applications de rencontres. On comprend qu'il rencontre, qu'il est en contact avec plusieurs jeunes femmes à qui il envoie.
Qui viennent le voir en prison ?
Alors, qui ne vont pas venir le voir forcément en prison, mais à qui il envoie des photos de lui. Ce qu'on sait, c'est que par rapport à justement ses visites en prison, sa sœur aînée, qui a 34 ans, lui, il en a 30, eh bien, en fait, elle va aider sa petite amie, donc à Mohamed Amra, dit la mouche. Hein, il a plusieurs surnoms d'ailleurs, hein, on peut les rappeler. La mouche, la chemou, Momo, Moumouche, Yanis, le schtroumpf.
C'est des surnoms plutôt sympathiques.
Oui, globalement, c'est plutôt sympathique. Oui, c'est sûr. Sauf qu'il ne l'est pas, Mohamed Amra, dans ce qu'on comprend aujourd'hui. Et il est loin de l'être même.
Et sa sœur, elle va jouer un rôle particulier.
Alors, sa sœur, oui, elle joue un rôle particulier. Déjà, elle va reconnaître, puisqu'elle est placée en garde à vue, à un moment donné, dans une affaire, une enquête qui est ouverte pour des faits de meurtre en bande organisée. Les faits remontent au mois de juin 2022 du côté du Rove, hein, c'est une petite commune du côté de Marseille. Elle est entendue et à ce moment-là, elle reconnaît qu'elle a aidé son frère à obtenir une carte SIM en détention. En fait, elle lui a remis une carte SIM.
Et là, dans ce dossier, le nom de Mohamed Amra apparaît donc.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait l'objet d'une surveillance accrue en détention. C'est lié à cette enquête sur cette affaire de meurtre en bande organisée.
Et c'est pour ça qu'il est sur écoute dans sa cellule.
Exactement. C'est dans ce cadre-là, dans le cadre de cette information judiciaire, qui est menée par une juge d'instruction de Marseille, spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée, qu'il va être surveillé spécialement, écouté dans sa cellule.
Toutes ces informations que peuvent recueillir les enquêteurs, elles ne vont pas remonter jusqu'au service pénitentiaire.
Non, c'est ce qu'on comprend. En tout cas, elles ne sont pas remontées tout de suite. Parce qu'en fait, il y a un cadre particulier, je viens de le rappeler, c'est une information judiciaire. Il est écouté dans le cadre de cette information judiciaire, ouverte après la découverte d'un corps carbonisé dans une voiture le 17 juin 2022 au Rove. C'est une petite commune à côté de Marseille. Dans ce cadre-là, il est entendu, il est écouté, il est particulièrement surveillé en détention. Ces informations, elles remontent au fur et à mesure vers la juge d'instruction. Il faut comprendre que ce n'est pas instantané. Si vous écoutez quelqu'un un jour, ces informations, déjà, elles vont être retranscrites peut-être plusieurs jours après.
Il faut faire le tri.
Exactement, il faut faire le tri. Tout n'est pas retranscrit. Et ensuite, ça va remonter à la juge. Mais ça ne remonte pas à l'instant T. Ça peut remonter plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois après les écoutes. Donc, et à partir de ce moment-là, la juge, elle estime si effectivement il y a un certain nombre de choses qui peuvent être communiquées à l'administration pénitentiaire. Mais elle est dans le cadre de son enquête. Donc, elle doit faire en sorte aussi de recueillir un maximum d'informations, d'éléments tangibles, d'éléments concrets sur l'implication de Mohamed Amra dans cette affaire de meurtre en bande organisée.
On a beaucoup parlé de DPS, détenus particulièrement signalés. Mohamed Amra ne l'était pas. Est-ce que s'il l'avait été, peut-être que ses conditions de transfert entre le tribunal et la prison auraient été différentes ?
Effectivement, sans doute que si ces informations étaient remontées à l'administration pénitentiaire, la sécurité, les conditions d'extraction de Mohamed Amra, la mouche, auraient été forcément renforcées.
Je voulais aussi revenir sur ces conditions de détention parce que vous nous révélez aussi qu'il n'y avait pas seulement des téléphones dans sa cellule.
Non, il n'y a pas seulement des téléphones dans sa cellule. Ce qu'on comprend, c'est qu'il bénéficie d'une chicha qu'il utilise, et il le dit lui-même, hein, en gros, pour égayer ses soirées d'été. Donc, on peut s'interroger sur la présence de ce matériel dans sa cellule. Il dispose aussi de téléphone portable, mais qui dit téléphone dit carte SIM, dit batterie pour le recharger. Il a aussi des cartes bancaires prépayées qu'il se fait remettre. On parle de nourriture aussi qu'il dont il passerait commande et qu'il se ferait donc apporter dans sa cellule. Et on sait aussi, alors un point très intéressant, au-delà des choses qui peuvent lui être remises aussi en détention, c'est qu'on comprend, et très distinctement d'ailleurs, qu'il cherche à se procurer des armes. Pas n'importe lesquels, des armes de guerre, des fusils d'assaut très puissants. Il parle d'un modèle AR. AR, c'est en fait l'AR-15. C'est un fusil mitrailleur, un fusil d'assaut produit aux États-Unis pendant très longtemps et qui était en dotation dans l'armée américaine. Fait troublant au cours donc de l'évasion de Mohamed Amra.
Ce sont ces armes-là qui ont été utilisées.
Il y a une arme qu'on voit donc dans cette vidéo qui correspond et qui est similaire à ce fameux AR-15 dont il veut passer commande depuis sa cellule de la santé. Et ça remonte au mois de novembre 2022, donc un an et demi avant son évasion. Ce qu'on ne sait pas, c'est que s'il a réussi à récupérer ces fameuses armes qu'il commandait, on parle d'une arme à 6000 euros pièce, hein, avec son fournisseur qui n'a pas été identifié. Mais voilà, on sait qu'il est dans sa cellule, qu'il pense à ça. Et d'ailleurs, il est très précis puisqu'il parle de AR, mais il veut des armes américaines qui tirent en mode rafale.
Avant son évasion, dans quelle prison il se trouvait ?
Alors, avant son évasion, il a été incarcéré au Baumettes, donc à Marseille. Il a été incarcéré dans la prison de la Santé à Paris. Il a fait aussi un passage du côté de la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, et également à Bois-d'Arcy, dans les Yvelines. Il était aussi dans la prison d'Evreux. Donc,
ça, c'était la dernière
c'était
prison.
C'était la dernière, en fait, là où il était lors de sa dernière extraction.
Est-ce que dans cette prison-là, il était sur écoute ? Est-ce qu'on peut imaginer que les enquêteurs sont en train de déchiffrer ?
Non, il ne semblerait pas que, alors qu'il était détenu à Évreux, il ait été placé sur écoute. En tout cas, on n'a pas ces informations aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il a cherché à se procurer un téléphone portable et qu'il a réussi à en récupérer un aussi dans cette maison d'arrêt.
Donc, on peut imaginer qu'il est lui-même derrière sa libération, qu'il a en tout cas demandé à son clan, à son gang de le libérer.
Clairement, c'est évidemment l'hypothèse aujourd'hui la plus retenue et celle qui est explorée, on va dire, en priorité. Je sais qu'à un moment donné, il a été évoqué la possibilité qu'il ait été enlevé par une bande rivale ou par des gens qui lui en voulaient. Bon,
cette hypothèse-là...
ça ne peut pas être écarté complètement. Mmh. Mais c'est vrai que celle qui aujourd'hui est privilégiée, c'est celle effectivement d'un clan, puisqu'on parle d'un clan, hein, la justice parle d'un clan Amra. Pas un clan familial, attention, hein, mais de gens qui sont autour de lui, de lieutenants, d'acolytes, de complices, de subordonnés. Un clan fort d'une vingtaine de membres et qui serait venu effectivement le faire évader de son fourgon cellulaire le 14 mai dernier à Incarville.
Gabriel Attal disait hier que l'enquête avançait, mais aujourd'hui, on n'a aucune idée où Mohamed Amra se trouve.
Non, aucune idée, absolument. Là, aujourd'hui, effectivement, la procureure de la République de Paris, Laure Bécquiot, a aussi évoqué sur notre antenne des pistes sérieuses. Mais vous imaginez bien que le plus grand secret aujourd'hui est observé autour des investigations qui sont menées pour remonter le plus vite possible au commando et à Mohamed Amra.
Merci beaucoup, Stéphane Selamy, grand reporter police justice de BFM TV, d'avoir répondu à mes questions. Merci à Hugo de Matos et Yves Pulici pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au Titre à la Une pour ne rater aucun épisode. Le Titre à la Une, c'est tous les jours du lundi au vendredi et tous les soirs sur BFM Radio avec Zachary Legros à 19h30.